Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série concernant qu'advient-il après la mort ? Nous arrivons à l'étude numéro 5 et aujourd'hui nous aurons l'enfer, le ciel et encore d'autres choses que le Seigneur va m'inspirer pour vous transmettre. Je dois dire d'abord que sur le ciel et l'enfer, j'avais déjà fait des études, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Chers amis, Jésus ne cesse de parler de l'enfer. Dans un certain nombre de passages de la Sainte Bible, il nous met en garde contre l'enfer que d'aucuns pourraient se créer ici-bas déjà. Qui, comme le troisième serviteur dans la parabole des talents, avait enfoui son bien, sera jeté dehors, dans les ténèbres. Et là seront les pleurs et les grincements de dents, nous est-il dit dans Saint Matthieu, chapitre 25, verset 30. Jésus ici veut nous avertir, si ta soif de sécurité et la volonté de tout contrôler guide nos pensées, si nous nous faisons de Dieu une image terrifiante, nous risquons de bâtir ici et maintenant notre propre enfer, synonyme d'autodestruction. Ceux qui grincent des dents la nuit, et ils sont nombreux, ne sont-ils pas souvent ceux-là même qui cherchent à réprimer leur émotion, qui s'appliquent à maîtriser les mouvements de son âme, perd à coup sûr le contrôle de son existence et fait de sa vie un enfer. D'autres paroles de Jésus, toutefois, évoquent l'enfer que peut nous réserver la mort. Dans l'évangile de Saint Luc, Jésus, à qui l'on vient de demander si seul un petit nombre sera sauvé, il dit ceci: luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Saint Luc chapitre 13, verset 24. À ceux qui ont vécu au mépris d'eux-mêmes et de leur propre cœur, il dit: je ne sais d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là seront les pleurs et les grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dehors. Saint Luc chapitre 13, verset 27. Jésus ne cherche pas à évaluer le nombre de ceux qui iront au ciel ou en enfer. Par son sermon, il nous exhorte plutôt à ouvrir les yeux et à prendre conscience de notre existence. Oui, il nous invite à être vigilants et à sortir du demi-sommeil où nous sommes. Car celui qui a trop longtemps vécu étranger à son cœur, qui s'en est lui-même exclu, ne trouve bientôt plus la clé pour y accéder. D'ores et déjà, nous devons donc écouter notre cœur et nous ouvrir à Dieu. Nous devons emprunter les chemins qui mènent à la vie. L'image de l'enfer, elle est vieille comme le monde et n'est pas exclusivement chrétienne. Le royaume des morts disent beaucoup de religions, abrite un lieu du châtiment sombre et sans espoir. C'est le pays sans retour, c'est un lieu d'abominable tourment, le Tartare. C'est une terre envahie par le feu. L'image de l'enfer remplit une mission pédagogique. De nombreuses religions, y compris le bouddhisme, que beaucoup d'intellectuels tiennent aujourd'hui pour une religion éclairée, y puisent un moyen de mener leurs croyants sur le droit chemin. Les représentations de l'enfer sont, dans les temples, souvent plus cruelles que dans nos églises. Et là aussi, elles invitent les hommes à vivre plus consciemment ici et maintenant. Dostoïevski, à qui l'on a demandé ce que était l'enfer pour lui, a répondu ceci. Je crois que c'est le douloureux regret de ne plus pouvoir aimer. Ce n'est pas Dieu qui jette l'homme en enfer, mais c'est l'homme qui se ferme à Dieu, interdisant à son amour miséricordieux de transformer le mal qui est en lui. De l'enfer, nous ne pouvons parler que en images. Un conte chinois le décrit du reste comme étant un groupe d'individus assis autour d'un immense tas de riz. Chacun possède un bâton avec lequel il peut se servir du riz, mais la pièce étant beaucoup trop étroite, personne ne peut le porter à sa bouche. Les malheureux, n'ayant pas l'idée de se nourrir mutuellement, ils souffrent en enfer d'une famine infinie et éternelle, et ce, malgré la profusion qui règne parmi eux. Donc, en enfer, l'homme reconnaît de quoi il est et qu'il a été capable. Mais s'étant fermé, l'homme s'étant fermé lui-même en lui-même, il souffre évidemment des opportunités qu'il a laissées échapper, c'est cela. Et c'est ce que exprime Jésus dans le récit du mauvais riche et du pauvre Lazare après sa mort. Rappelez-vous, l'homme riche endure des souffrances atroces. Et voilà qu'il voit le pauvre Lazare qui repose dans le sein d'Abraham. Alors il s'écrie, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette terrible flamme. » Saint Luc chapitre 16, verset 24. La vision du bonheur de Lazare accroît donc encore plus ses tourments. Voyez-vous, lorsque nous parlons de l'enfer, nous ne devons ni le minimiser, ni retomber dans les sermons des années 1950 qui instillaient la peur dans le cœur des hommes. À ses débuts, l'Église évoquait à peine l'image de l'enfer. Et lorsque, à la faveur des transformations sociales qui ont marqué le 5e siècle, les hommes ont afflué en masse à l'Église, et celle-ci a eu recours à l'enfer afin d'exhorter ses fidèles à mener une vie conforme à celle du Christ. Se mêlant parfois aux représentations de la géhenne des penchant sadique et agressif qui souhaite à autrui d'aller en enfer. Et l'autre danger, s'agissant de l'enfer, ce danger consiste à le minimiser tout simplement. Et ça, c'est une tendance qui, en réaction au sermon outrancier des années 1950, est très répandue dans la théologie actuelle. L'enfer, pour beaucoup de théologiens aujourd'hui, a même cessé des réflexions. Comment parler de façon appropriée de l'enfer? Selon moi, nous devons, nous chrétiens, nous devons nous tenir à cette contradiction apparente que l'enfer est vraiment possible, même s'il n'est a priori à souhaiter à personne. Voyez-vous, si dans la mort, l'homme se ferme à Dieu et rejette l'offre de son salut, eh bien, il se bâtit, on peut quand même le dire, il se bâtit son propre enfer. Dans le même temps, nous sommes en droit d'espérer que l'amour de Dieu triomphera de cette ultime résistance et ouvrira le cœur, oui, le cœur de celle et de celui qui s'y était refusé. Or, l'effraction ne se fera, croyez-moi, elle ne se fera pas sans douleur, car continuer de vivre dans le péché n'importe comment, cela, croyez-moi, c'est absolument à éviter si nous ne voulons pas mal finir. Je vous dirai que vous trouverez sur internet www.biblexplique.ch une étude absolument complète sur l'enfer et le ciel. Et je vous recommande, de écouter le fabuleux témoignage de Marietta. Chers amis, maintenant parlons plutôt un peu du ciel, c'est beaucoup plus important. Ça ne veut pas dire que l'enfer n'est pas important. Oui, c'est quelque chose que je vous conseille à absolument à éviter. C'est pour ça, ouvrons-nous à quelque chose de plus beau, quelque chose qui va vraiment aider encore mieux à désirer de vouloir être sauvé, être dans Jésus-Christ. Chers amis, les chrétiens ont souvent du mal à décrire le ciel qui les attend. La théologie l'a souvent dépeint de manière très abstraite, comme étant un lieu où l'homme ne forme que un avec Dieu. Comment pouvons-nous, nous chrétiens, nous imaginer le ciel? Quelles que soient les images que nous en concevons, elles demeurent toujours en deçà de ce qui nous attend. L'apôtre Paul ne dit-il pas qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu ce que Dieu a préparé pour nous? 1er épître de Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Donc, du point de vue de la philosophie et de la psychologie, nous pouvons dire du ciel que nos désirs les plus profonds y seront exaucés. s'il nous est donné, ici-bas, de goûter le bonheur dans l'amour, dans l'union, ou encore dans l'extase, nous ne pouvons le retenir. Tout désir réalisé fait naître un nouveau désir. Nous recherchons toujours plus de profondeur et d'intensité, une aspiration que le ciel satisfait. Tout ce dont l'homme rêvait, ce que son utopie lui faisait imaginer, ce que sa nature dissimulait en elle, et tout ce qui en lui aspirait à la lumière, tout cela vient à éclore et à s'épanouir. Le ciel révélera notre être véritable, l'image singulière que Dieu s'est faite de nous y resplendira dans son éclat originel. Au premier siècle de notre ère, saint Ignace a exprimé ce mystère par cette phrase merveilleuse: une fois arrivé au ciel, je serai enfin un homme. Notre vie ici-bas offre des expériences qui nous rapprochent du ciel. Ainsi disons-nous, c'était divin. Par exemple, une musique divine peut nous enchanter. Un paysage divin peut nous envoûter. Et le temps, à certains moments de notre existence, semble avoir suspendu son vol. De tels instants ouvrent nos yeux à ce qui nous attend au ciel. Ce sont des expériences intenses du présent où l'ennui n'existe pas. Ce dernier, au reste, tient à ce que nous passons d'un sujet à l'autre, incapable de nous attarder sur les choses. Certains, lorsqu'ils visitent un musée, s'ennuient parce qu'ils ne se laissent pas captiver par les œuvres. Celui qui, en revanche, s'arrête devant une peinture fasciné et touché et s'abîme en quelque sorte dans la contemplation, eh bien, il ne connaît pas l'ennui. Le mystère de l'émotion qui éprouve le transport dans un autre monde, donc captif à l'instant, il ou elle est pour ainsi dire au ciel. Un nouveau monde s'ouvre à lui, à elle, qu'il ou elle admire totalement ébahi. Voyez-vous, même si nous concevons le ciel comme un lieu, nous devons toujours avoir présent à l'esprit qu'il s'agit, bien entendu, d'une image que nous faisons, qui n'est pas encore l'absolue réalité, car Dieu lui-même est le ciel. Les théologiens Médard Cale conçoit ce dernier comme étant un événement personnel, comme étant une rencontre avec Dieu et comme le parachèvement de notre relation à Dieu, laquelle ici-bas est toujours fragmentaire et enténébrée. Si nous nous en remettons pleinement à ce lien qui nous unit à Dieu, eh bien nous avons réussi notre vie, nous accédons à la réussite définitive de notre identité. Tout ce que nous avons vécu, y compris les relations que nous avons entretenue avec les autres est intégrée au lien qui nous unit à Dieu. Chers amis, s'il y a un ciel, eh bien, c'est parce que Jésus-Christ a lui-même, Jésus a lui-même doté la réalité humaine d'un lieu dans la réalité de Dieu. L'homme est au ciel lorsqu'il est en Jésus-Christ, et à travers le Christ, il se trouve en Dieu le Père. Ce que la Sainte Bible dit du Christ, cela s'applique également au ciel. Jésus est le nouveau temple. Le ciel est donc la nouvelle Jérusalem où Dieu est à jamais loué et adoré. Cet être, voyez-vous, c'est de être en Jésus-Christ. Et cela, je crois, inclut toutefois l'être tout entier avec tous ceux qui ensemble constituent le corps du Christ. Au ciel donc, nous nous unissons à Jésus-Christ et nous constituons ensemble, vous et moi, son corps. Le ciel ne connaît pas l'isolement. Il est la communauté ouverte des saints et par conséquent, il est l'accomplissement de l'être, d'être tous ensemble, unis à Dieu le Père et à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Toutes les images par lesquelles la Sainte Bible nous décrit le ciel expriment ce merveilleux mystère. Au ciel, nous sommes en Jésus-Christ et en lui, nous sommes élevés jusqu'à Dieu le Père. Notre vie en Jésus-Christ est alors à jamais synonyme de dévouement, d'amour, d'ouverture à Dieu et aux hommes. Ce ciel où s'accomplit l'amour est un don de Dieu, que l'homme ne peut s'attribuer à lui-même. Du point de vue théologique, le ciel est comme la rencontre de l'être humain et de l'être divin. Cette interprétation de Dieu et de l'homme, elle s'est faite en Jésus-Christ, et c'est donc au ciel que Jésus-Christ a ouvert pour nous la plénitude qui nous sera offerte. Le mystère de l'incarnation de Dieu qui s'est faite en Jésus-Christ s'accomplit donc au ciel à travers nous. Voyez-vous, notre nature spirituelle ainsi est une structure capable d'infini. C'est une possibilité que seul Jésus de Nazareth a pu réaliser sur terre, parce qu'il a été le seul homme en qui Dieu s'est incarné. Nous disons que toutes nos possibilités allaient se réaliser au ciel. Nous devons donc y inclure la capacité d'être accepté par Dieu et de former avec lui un tout individuel et immuable. Le ciel néanmoins, n'abolit pas la différence qui existe entre le Créateur et la créature. Nous ne deviendrons pas Dieu, mais nous serons accueillis en lui. Sans que aient disparu les différences entre Créateur et créature, nous formerons une ultime entité d'amour comparable à l'unité que forme Jésus de Nazareth et la Trinité. En nous offrant le ciel, Dieu nous fait une promesse. Accueillis en Jésus-Christ, nous nous unirons en lui à Dieu et nous deviendrons en Dieu l'homme, la femme, qui ressemblera toujours encore davantage au Christ. Chers amis, certains s'imaginent que au ciel nous nous engloutissons en Dieu, que, pour ainsi dire, nous disparaissons en lui et que notre ego et même notre personne cessent complètement d'exister. Eh bien, en tant que chrétien, nous avons du ciel une toute autre représentation. La personne s'exprime dans le corps. Donc chaque homme est unique et singulier, et la mort ne le fait pas tout simplement, comme certains pensent, disparaître. Non. Il demeure une personne toutefois qui est transfigurée et qui est réconciliée avec toute chose. Elle conserve les attributs plus, on peut dire, beaucoup plus limpides qu'autrefois dans son identité unique. Donc, elle représente, dans son originalité et dans sa pureté, l'image singulière que Dieu s'est faite d'elle. Donc, notre corps sera transfiguré. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul répond aux questions que nous nous posons à propos du corps des ressuscités. Je dis, mais dira-t-on, comment les morts ressusciteront-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie que s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, soit de blé, soit de quelques autres plantes. Et Dieu lui donne un corps à son gré. À chaque semence, il lui donne un corps particulier. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 à 38. J'ai pris cela dans la version allemande. Donc, la vie que nous menons ici-bas, dans notre enveloppe charnelle à l'heure actuelle, elle est pareille à une graine qui éclora totalement, merveilleusement, au ciel. La fleur, alors, elle s'y épanouira dans toute sa splendeur. Ce qui en nous, sur terre, resplendit d'unicité et de beauté, brillera au ciel dans tout son éclat. Mais nous y serons des êtres incarnés. Nous serons des personnes et non pas de simples âmes qui, pareilles à des gouttes d'eau, s'engloutiraient dans l'océan du divin. Le corps mémorise les expériences intenses. En psychologie, il est fréquent de voir que la colère, cette colère qui parfois est refoulée, elle se fixe dans le corps. Toutes les émotions fortes passent par ce dernier. L'amour s'exprime donc dans le corps, et de même que la joie d'un individu, elle se lit sur son visage et dans son maintien. Le chagrin lui courbe le dos et assombrit son regard. Dans notre corps, nous emportons tout ce que nous avons vécu ici-bas et que au ciel sera totalement transformé. Cela vaut de la même manière pour les blessures que nous avons subies. Notre corps sera transfiguré, y compris les stigmates de la réconciliation chez les victimes et les plaies du repentir chez les coupables. Car rien de l'ancien monde ne tombera dans l'indifférence ni l'oubli. Tout demeurera sous une forme à jamais transformée, éternellement présent. Alléluia. Jésus ressuscité rencontre l'apôtre Thomas et invite le disciple, en proie au doute, à toucher ses blessures. Eh bien, nous aussi, une fois ressuscités, nous montrerons les uns aux autres nos blessures, mais elles seront transfigurées et nous ouvrirons au mystère de l'amour qui est beaucoup plus fort que la mort. Gloire à Dieu. Le Christ sur la croix arbore, dans de nombreuses représentations, des blessures dorées. De la même manière, nous pouvons nous imaginer que nos plaies se transforment au ciel en perles étincelantes, lesquelles nous parent plutôt qu'elles ne nous défigurent. Oui, elles nous rappellent la vie que nous avons vécue sur terre, tout en nous montrant que cette vie est à jamais transformée et transfigurée au ciel, que sur notre visage, comme lors de la transfiguration de Jésus, s'illumine maintenant la gloire de Dieu, faisant resplendir notre personne dans son éclat originel. Oui, chers amis, la résurrection du corps, cela signifie que nous ne disparaissons pas en Dieu, en tant que personne. Nous sommes en Dieu et devant lui, et nous sommes liés aux autres. Aussi n'est-il pas illusoire d'aspirer à retrouver au ciel ceux que nous aimons? Un désir qui, j'en ai la certitude, sera exaucé. Nous, nous reverrons et nous prendrons dans nos bras, étreignant dans un même geste tous ceux qui ont été avant et après avec nous. Ceux-là même, oui, ceux-là même que nous ne connaissons pas. Et il y en a. Cette rencontre englobera la totalité des hommes, des femmes, et s'opérera dans un amour, dans une liberté et une reconnaissance inépuisable. Cette situation ne peut être pensée dans les catégories terrestres de l'espace et du temps, d'où notre difficulté à nous l'imaginer, bien entendu. Or, dans l'amour de Dieu, la rencontre de ceux que nous avons aimés exauce notre ardent désir de fusion. Et celle-ci n'a rien de statique. Bien au contraire, nous prenons part à la vivacité de l'Esprit divin, lequel ne cesse de faire se rencontrer les hommes dans des situations et des configurations toujours nouvelles et différentes. La rencontre de ceux que nous avons connus n'est pas le simple prolongement de ce que nous avons vécu sur terre. C'est ce que explique Jésus aux Sadducéens lorsque ces derniers lui raconte l'histoire de 7 frères qui, morts les uns après les autres, ont épousé successivement la femme du premier frère. Les Sadducéens s'interrogent et ils disent, voyons, cette femme à la résurrection, duquel d'entre eux va-t-elle devenir la femme? Car les 7 l'auront eue pour femme. Saint Luc, chapitre 20, verset 33. Mais le ciel, il ne se contente pas de reproduire les relations que nous avons vécues sur terre. Pas du tout. Il nous ouvre non seulement à ceux que nous avons aimés, mais aussi à ceux qui nous ont blessés. Il instaure une nouvelle forme de communauté. D'où donc la réponse de Jésus à la question des Sadducéens. Il leur a dit, « Les fils de ce monde, de ce monde-ci, prennent femme ou mari, mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, ou si bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges et ils sont fils et filles de Dieu. Étant fils et fille de la résurrection. » Saint Luc, chapitre 20, versets 34 à 36. Donc, au ciel, nous ne poursuivons pas la vie de couple que nous avons connue sur terre. Nous ne nous mettons pas non plus en quête d'un époux ou d'une épouse lorsque, de notre vivant, nous étions célibataires. le ciel instaure une toute nouvelle forme de relation entre les hommes, fondée sur l'ouverture et sur l'amour agapé. Il accomplit l'amour que nous avons connu dans notre couple, tout en l'ouvrant à ceux qui nous entourent. Nous ne pouvons ici-bas imaginer cette ouverture à tous. Le ciel demeurera donc toujours quelque chose d'inconcevable, mais il est des images qui nous y préparent. Jésus dit que au ciel, nous sommes pareils aux anges. Cela ne signifie pas que nous sommes dépourvus de corps. Les anges sont ceux qui, jour et nuit, regardent Dieu. Ils symbolisent de ce fait la contemplation. Au ciel, notre priorité sera de regarder Dieu et d'être entièrement tourné vers lui, ce qui fera de nous les fils et les filles de Dieu. Nous continuerons d'être les créatures uniques qui ont été créées par Dieu et remplies de son esprit, toutes en prenant part à Dieu et à sa nature. Nous ne vivrons pas pour nous-mêmes, mais uniquement pour Dieu. Ce que Jésus résume ainsi, tous, en effet, vivent pour lui. Saint Luc, chapitre 20, verset 38. Dans ce même temps, nous pouvons être certains que cette vie tournée vers Dieu n'exclura pas les hommes. Ce lien à Dieu instaure au ciel une relation d'autant plus intense entre les hommes et les femmes, si bien que l'on peut parler d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, d'une création nouvelle au sein de laquelle les hommes, dans la contemplation de Dieu, agissent entre eux et envers la création dans un amour qui ne détruit pas la liberté et dans une liberté qui ne restreint pas l'amour. Car Dieu, c'est lui le fondement même de tous les deux. Donc, lorsque la Sainte Bible parle d'un nouveau ciel et d'une terre nouvelle, elle nous enseigne que le ciel n'est pas seulement Dieu, mais qu'il inclut le monde, que la création toute entière est intégrée au ciel et que les hommes et leur expérience terrestre y sont accueillis. Dans le même temps, la Sainte Bible nous enseigne que le ciel modifie notre rapport à la terre, que plus rien ne nous sépare du monde et des autres, parce que nous ne formons plus que un avec Dieu. Dieu nous ouvre donc au monde et nous rend capables d'une nouvelle forme de relation à l'autre. Le ciel réalise l'homme dans toutes ses dimensions. Tourné vers le monde, il est présent dans toutes les choses et entretient avec elles un rapport fraternel et intime qui est tourné vers les autres. Il forme avec eux une communauté parfaitement fraternisée. Enfin, et avant tout, totalement tourné vers Dieu le Père. Il est l'enfant qui communie avec le Père et accède définitivement à cet ultime amour. Rappelons ici la pensée philosophique de Karl Rahner, selon laquelle l'âme, dans la mort, établit un nouveau rapport avec le cosmos. À travers les défunts, dont le corps est rempli de l'éclat de Dieu, la terre acquiert une luminosité totalement accrue. Donc, pour terminer, chers amis, cette étude, disons simplement que Dieu sans cesse se renouvelle et en Dieu, le regard porté sur les hommes est sans cesse renouvelé et cette conception dépasse l'entendement de tous ceux qui sont incapables de libérer leurs pensées des catégories terrestres et n'aspirent pas, hélas, au ciel. En quête perpétuelle de nouvelles expériences, ceux-là ne peuvent concevoir que le ciel statique. Le ciel, de ce fait, n'est pas statique, mais est dynamique. Et dans sa Divine Comédie, Dante parle des différents cercles du ciel et de son ascension jusqu'au dernier d'entre eux, image du crescendo intérieur de la contemplation divine. Celle-ci n'a rien de statique. Oh non, en elle, nous pénétrerons toujours davantage le mystère de Dieu, l'inépuisable dont nous ne venons jamais à bout et nous ne viendrons jamais à bout. Au ciel, nul besoin d'amusement ni de divertissement pour dissiper l'ennui, car Dieu sans cesse est renouvelé en nous, il nous tient en haleine et nous maintient en une vie éternelle, dans un bonheur et un épanouissement total. Chers amis, avant de prier ensemble, j'ai reçu dans le cœur d'essayer de vous transmettre quelques paroles d'encouragement et d'enseignement. Il est dit en Saint Matthieu chapitre 6, verset 28, « Venez à moi et je vous donnerai du repos. » En effet, tout en travaillant, sachez vous maintenir en état de détente. Que votre cœur se repose en lui, en Jésus, dans l'assurance de sa solitude, de sa sollicitude et de tous les instants. Offrez-vous donc à ce repos du cœur pour en éprouver le bienfait dans tout votre être. Approchez davantage et prêtez l'oreille. Votre âme, ainsi, elle vivra. Il s'agit pour vous de croître en force véritable et non de vous laisser écraser par les soucis accumulés par trop de travail. Les difficultés de la vie ne doivent en aucun prix, telles des mauvaises herbes, détruire la paix de votre âme, étouffer ou retenir le libre élan de votre esprit. Parfois, nous devons apprendre à lever le pied pour éviter le pire. Donc, affranchissez-vous des servitudes terrestres pour vous élever libre et connaître une vie nouvelle, abondante et victorieuse. Et maintenant, nous allons prier ensemble et je voudrais vous dire les strophes d'un très ancien cantique. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux quand je t'écoute et que cette parole qui dit « Sois la lumière » et la lumière fut, elle s'abaisse jusqu'à moi, elle m'instruit et me console et elle me dit « C'est ici le chemin du salut ». Prions. Quelle grâce tu nous fais, ô notre Dieu, de nous permettre de nous approcher ainsi de toi chaque jour et d'entrer avec toi dans une sainte conversation par la lecture de la sainte parole et par la prière. Fais que chacune des occasions que tu nous donnes, nous sachions la mettre à profit. Rends-nous fidèles aussi, Seigneur, afin que nous sachions parler de toi à ceux qui ne te connaissent point. Tu nous as promis, Seigneur Jésus, de confesser devant ton Père céleste, celui qui te confessera devant les hommes sera retenu. Mais tu renieras devant ton Père céleste celui qui t'aura renié devant les hommes. Donne-nous donc un saint courage pour te confesser et pour te rendre toujours un fidèle témoignage. Seigneur, toi qui n'as point eu honte de nous appeler tes frères et tes sœurs, et de te rendre semblable à nous, afin de nous rendre semblable à toi, fais que nous n'ayons point honte, que nous n'ayons jamais honte de toi. Ouvre notre bouche, afin que nous puissions raconter les grandes choses que tu nous as faites. Nous te prions de bénir les efforts de tous ceux qui travaille à l'avancement de ton règne et au salut des âmes. Ô, remplis-les de ton Saint-Esprit et donne efficacité à leurs paroles pour convaincre les pécheurs et pour amener les âmes captifs aux pieds du Sauveur. Combien y en a-t-il, Seigneur, qui s'ouvriraient avec bonheur à ta sainte parole, si elle leur était présentée avec beaucoup d'amour. Oui, daigne te servir de nous, malgré notre faiblesse, et donne-nous de ne pas perdre une seule occasion de nous dévouer à nos frères et sœurs et de te glorifier. Exauce-nous pour l'amour de ton saint nom. Amen. Et chers amis, maintenant, je vais essayer de vous transmettre des chants d'un lointain autrefois, en 1962. il n'y avait pas encore des cassettes. Alors essayons.
Happy day.
Faithful you that a sun don't shine. me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something, make you change your mind.